Bonsoir Frédéric Becbédé.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous pour ce barrage sur l'Atlantique qui est sorti chez Grasset. Ce barrage, c'est un titre en hommage à votre fille, on pourrait dire ça ?
Alors, il y a une erreur dans le titre. C'est pas sûr, c'est contre.
Oui.
Et il y a beaucoup d'amour pour mes enfants dans ce livre, mais le titre est plutôt une référence à Marguerite Duras.
Certes, mais pas seulement. Parce que dans ce livre, vous expliquez aussi que l'Atlantique, pour vous, c'est le moment où votre fille aînée s'est éloignée de vous, qui a été un drame.
Oui, un drame. Oui, c'est vrai. Oui, le départ des enfants quand ils sont grands et qu'ils n'ont plus besoin de leurs parents est une douleur que j'ai découvert récemment. Et c'est naturel et inadmissible. Et ma fille Chloé a vécu deux années à Bordeaux. Voilà. Et donc, quand je l'ai accompagnée à la gare, j'ai eu très envie qu'il y ait un barrage sur la voie ferrée. Mais malheureusement, ce jour-là, les cheminots n'étaient pas en grève. C'était un des rares jours de l'année.
C'est pas de chance.
Oui, j'ai vraiment pas eu de chance.
Non, ça c'est pas.
Donc, je l'ai accompagnée à la gare Montparnasse et elle est partie. Et là, je me suis aperçu que j'avais passé beaucoup d'années à élever cette personne et que maintenant, il fallait qu'elle vive sa vie. Je trouve que c'est une tristesse absolument infinie.
Et dans ce livre, là, il est vraiment question beaucoup, beaucoup de familles.
Oui.
Celle, donc vos parents, votre fille, et puis votre vie aujourd'hui avec vos enfants aujourd'hui. C'est pas tout à fait une biographie. En tout cas, sur l'ensemble de votre œuvre, on pourrait dire que vous avez construit une biographie générale. Là, vous êtes un peu à un moment donné. Alors, il y a quand même un point commun dans votre écriture, c'est le présent. Vous avez un rapport au temps très singulier, Frédéric Becbédé, puisque on a la sensation que vous écrivez avec ce dont vous vous souvenez au moment présent, quoi qu'il arrive.
Je crois que la mémoire évolue et donc le passé évolue. Et c'est ce qui me passionne, moi, dans l'écriture, c'est quand on commence sans savoir très très bien où l'on va et que tout d'un coup, en écrivant, des souvenirs reviennent et la mémoire revient, le passé est transformé. Et ce livre, c'est vraiment une sorte de plongeon dans l'inconnu. Je commence par des phrases disjointes qui sont tout ce qui surnage d'une existence. Mais il y a aussi des paysages, il y a aussi un endroit où j'écris, qui est le Cap Ferret. Et puis, progressivement, ça s'organise parce que le cerveau humain est organisé à notre insu. Et donc, quand on écrit comme ça, sans savoir où on va, finalement, Dieu merci, quelque chose s'enclenche. Il y a un engrenage qui s'enclenche. Et je pense qu'à partir de quelques pages, j'espère qu'on est... j'espère attraper un lecteur disparate ou désorganisé comme moi et l'emmener dans des souvenirs nostalgiques mais aussi cruels, des émotions, de retrouver des émotions importantes de ma vie. Mais ma vie, on s'en fout, c'est des émotions qui sont universelles, comme celle que je viens de raconter quand un père accompagne sa fille à une gare pour lui dire de prendre son envol. Ce qui est à la fois sublime et atroce. Mais il y en a beaucoup. C'est une sorte de catalogue de sensibilité. Et alors, comme ce sont... Bon, je dis à un moment, mon passé m'envoie des SMS.
Oui.
J'essaie de concurrencer les SMS. J'essaie de vaincre Twitter avec ce roman. Donc, ce sont des phrases éloignées les unes des autres, avec du blanc autour. Comme si on regardait son téléphone et qu'on voyait des tweets, sauf que plus on tourne les pages et plus elles se rapprochent les unes des autres, et à la fin, elles fusionnent, le roman ressuscite, la littérature a vaincu Twitter, merci de votre attention. Donc vous constatez que je suis toujours aussi peu modeste et toujours très ambitieux. Mon but, c'est d'humilier Mark Zuckerberg et tous les fondateurs des GAFA, avec de la littérature, leur dire voilà, vous croyez que vous avez gagné une bataille, peut-être c'est une bataille, mais la guerre, vous allez la perdre. avec mon livre. Et si on n'est pas complètement prétentieux, ça ne sert à rien de commencer un livre. Et voilà le projet.
Alors, dans ces phrases qui sont séparées les unes des autres, comme donc vous dites, c'est un peu des SMS, mais en même temps, c'est assez suivi, hein, en fait. Vous laissez le passé vous rappeler des choses. Dans l'intitulé de ce barrage contre l'Atlantique, vous nommez quand même que c'est le tome 2 qui fait référence à un roman français que vous avez écrit en 2009, qui est sorti en 2009, toujours chez Grasset. Et vous parlez de David Fonkinos, qui a écrit aussi, en fait, Charlotte, ce livre dans lequel, lui, il va à la ligne régulièrement. Oui. Alors, lui, il explique qu'il va à la ligne régulièrement parce qu'il a été submergé et qu'il a eu du mal à écrire le livre, puisqu'il raconte la vie de Charlotte Salomon, qui était un écrivain avec une histoire assez bouleversante. Moi, je me suis demandé, en fait, en dehors du fait qu'il y ait cette référence à Twitter, parce que vous avez une phrase très rigolote aussi, vous dites que finalement, vos phrases, elles sont en distanciation les unes des autres. Qui est un petit pied de nez assez rigolo. Mais en même temps, dans ce livre, vous écrivez aussi que vous cherchez la phrase qui pourrait vous faire pleurer. Donc, il y a quelque chose qui tourne autour du fait que vous êtes un personnage très joyeux, vous aimez rire de la vie, mais en même temps, dans ce livre, plus que jamais, vous sous-entendez un chagrin, peut-être. Alors quoi? Quelque chose que vous ne savez pas trop comment appréhender?
Oui, c'est un état qui est assez, je trouve, lié à la solitude de l'écriture et qui s'appelle la mélancolie. État dans lequel j'aime me complaire. Je trouve qu'il y a un confort du chagrin et de la tristesse et que ça inspire. Donc j'étais séparé de mon épouse, j'étais seul sans mes enfants. En plein hiver, pendant que le monde était complètement à l'arrêt en 2020, il n'y avait aucune distraction possible, il n'y avait plus de société humaine. Bon, il y avait de quoi être en dépression, franchement. Je pense que les gens qui étaient joyeux de cette situation, ce sont eux les vrais malades, mentalement malades.
Mais vous expliquez que ça fait longtemps que vous avez cette petite dépression quelque part qui, en même temps, vous a donné beaucoup de panache.
Oui, si vous voulez qu'on fasse une psychanalyse là maintenant, je vais m'allonger, mais c'est tout à fait, vrai.
C'est ce que vous faites quand même dans votre...
Oui, parce que j'essaye d'atteindre le maximum de sincérité, d'être complètement honnête avec les risques que ça implique, non seulement pour moi, mais pour les gens que j'aime, et mes proches, et mes parents, mon père, ma mère, et tout ça. Et puis voilà, je cite, c'est vrai, des écrivains qui ont aussi ressenti ce besoin de casser la forme du roman classique. Alors, le XXe siècle n'a fait que ça, des dadaïstes au nouveau roman, en passant par les surréalistes, il n'y a eu que des tentatives pour casser le moule du roman balzacien. Mais je trouve qu'au XXIe siècle, curieusement, on est un peu revenu à une littérature classique, le bon gros roman... du 19e siècle, et ça me surprend, et donc je cite David, mais je cite aussi Éric Chevillard, Édouard Levé, et de nombreux écrivains qui, comme ça, pratiquaient la distanciation littéraire, c'est-à-dire des petites touches, comme des fragments, comme des bribes, comme des vagues sur une plage, ou comme, je ne sais pas, des nénuphars posés à la surface de l'eau, ou une bouteille à la mer, et dans le fond, je suis assez persuadé que le cerveau, il est comme ça. Nous pensons à beaucoup de choses disparates et qui se bousculent. Notre cerveau est assez bordélique. Là, par exemple, vous pensez, qu'est-ce qu'il raconte ce connard? Et en même temps, vous pensez, qu'est-ce que je vais lui demander après? Parce qu'il y a bien un moment où il va la boucler, il faudra que je meuble. Et puis, vous me regardez quand même avec une petite ironie en disant « il me fait son petit numéro, celui-là
bah, ». C'est un peu vrai, d'ailleurs.
Et vous donc, vous pensez beaucoup de choses simultanément. C'est ça que je veux dire. Oui. Il y a simultanément toutes ces pensées d'amour et de haine qui sont en vous, envers moi-même. Et en même temps, vous avez une petite angoisse, parce que vous vous dites qu'est-ce que ce public va penser de tout ça. Voilà. Et vous avez raison.
Non, j'ai pas d'angoisse, mais en revanche, sur les romans et la littérature, vous êtes très cultivé, Frédéric Becbédé. Il est souvent question de références littéraires dans votre écriture. Et pour celui-ci, j'étais étonnée que vous ne citiez pas Raphaël Antoven et Le Temps gagné, qui est un roman qui, quelque part, fait écho au vôtre, puisque vous revenez sur ce principe aussi qui est de dire « j'ai grandi dans une famille française, bourgeoise, assez classique, et qu'est-ce que j'en ressors aujourd'hui ?»
Oui.
Il y a de ça ?
Ça me fait plaisir parce que, bon, Raphaël Antoven, j'ai défendu son roman Au masque et la plume contre quatre personnes vraiment très hostiles et une salle assez remontée. Et moi, je pense quand même qu'il était important qu'il écrive ce livre librement, et même si pour ses proches, ça a dû être difficile. Mais enfin, avant Raphaël Antoven, il y a beaucoup d'autobiographes qui ont parlé de leur, enfin, qui ont écrit à la première personne. Et donc, si vous voulez, si vous me permettez, je peux aussi penser aux Rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, qui commence par une phrase qui est vraiment la phrase qu'on pourrait citer pendant le confinement. C'est « Me voilà donc seul sur cette terre, sans frère, sans amis, ni d'autre société que moi-même. » Et il commence. Et il commence comme un peu, enfin, c'est un projet infiniment supérieur, mais qui est le même, c'est-à-dire tout ce qui lui passe par la tête, dans le désordre. Et voilà, il était un peu parano, tout le monde, personne ne m'aime et tout ça, je suis seul au monde, j'ai beaucoup d'ennemis, on ne me comprend pas. Et puis voilà, il marche, il se promène, et ce sont des promenades qui finissent par s'organiser. Et c'est la même chose. Alors, pour citer encore plus écrasant, allons-y, tant pis. C'est le camarade Montaigne, que vous connaissez bien ici, qui dit « Je me roule en moi-même. Je me roule en moi-même. » Et lui aussi écrit un peu dans le désordre tout ce qui lui passe par la tête. C'est une liberté et un danger. Mais il faut, à un moment, je crois, si on veut être écrivain, on est obligé de passer par là. On ne peut pas faire autrement. J'aime beaucoup la fiction et j'ai écrit quelques livres de fiction et de satire. Mais une fois de temps en temps, on doit se prendre le risque de se mettre à nu et d'essayer de chercher ce qu'on fait là, ce qui ne va pas, d'où on vient.
Mais dans ce livre, c'est la façon dont vous écrivez vous ressemble, puisque la littérature, c'est l'histoire de votre vie, Frédéric Becbédé. Et les citations sont pour vous assez vitales. Or là, vous écrivez comme si chaque phrase était une forme de citation quelque part.
Chaque phrase doit être importante, doit être nécessaire, doit être la dernière de ma vie. Elle doit être celle qui me sauve de l'envie de me suicider. Chaque phrase reporte mon suicide d'une phrase.
Mais quel rapport vous avez avec la mort?
Parce qu'il en est plein. J'ai écrit un livre qui s'appelle Une vie sans fin, donc j'espère que ma mort n'aura pas lieu. Et j'espère la vaincre grâce à une phrase, justement. J'espère qu'un jour, il y aura une phrase que j'aurai écrite et qui sera sur une carte postale, sur un tourniquet de gare désaffectée après la fin du monde. Il n'y aura plus d'humanité, il n'y aura plus rien sur Terre, mais il y aura quand même ce tourniquet avec une carte postale où il y aura une phrase de moi. Je ne sais pas laquelle.
Dans celui-là, en tout cas, vous écrivez, dans ce livre-là, vous écrivez que vous cherchez la phrase qui pourrait vous faire pleurer.
Oui.
Vous l'avez trouvée ?
C'est la dernière du livre.
Elle vous fait pleurer, la dernière.
Je crois que si on lit le livre dans l'ordre, alors on peut le lire en autant de temps qu'on veut, trois phrases par-ci, par-là, mais dans l'ordre. Et puis, si on arrive à se faire prendre par la progression, j'espère qu'à la fin, on arrive à cette dernière phrase et que c'est la phrase qui sauve et qui fait fondre en larmes. Oui. J'ai reçu beaucoup de courriers de personnes qui m'ont dit ça. Et c'est ce qu'on peut trouver de plus beau comme compliment à me faire.
Mais pourquoi vous cherchez une phrase qui vous fait pleurer? Parce que vous n'arrivez pas à pleurer?
Non, je pleure assez facilement. Là, récemment, j'ai beaucoup pleuré à la projection de Licorice Pizza.
Oui.
Non, j'aime bien ça. Je peux pleurer en écoutant une chanson. Là, en venant, j'ai conduit une voiture pour venir ici. J'ai pleuré en écoutant une chanson. C'est Le Maudit de Véronique Sanson. C'est tellement beau.
Donc, vous aimez bien pleurer.
Il y a ce moment où elle dit Tu souris à tout le monde. Mais ta douleur n'est pas ta faute. Et là, j'ai pleuré.
D'accord.
L'art sert à ça. Si vous écrivez quoi que ce soit sans ce but-là, vous êtes un imposteur, un usurpateur. Vous devez être viré.
Et vous êtes un
vous devez être guillotiné.
Et vous... Oui, bah oui.
Immédiatement. Alors, oui. Un type qui publie un livre qui n'a pas comme but de faire pleurer de joie ou de tristesse son lecteur mérite la guillotine. Bon, ok.
D'accord. Alors.
Mais ils vous diront tous qu'ils font ça pour la même raison, et donc c'est pour ça qu'on ne les exécutera pas tout de suite.
Vous décrivez une enfance finalement dans laquelle vous êtes assez vieux, c'est-à-dire vous êtes assez sage, et une adolescence qui n'en finit pas d'être une adolescence assez joyeuse. Et vous décrivez votre amour de la littérature, de la peinture, du temps à observer, à prendre le temps. Et vous arrivez quand même, dans cette description, vous arrivez à un moment assez fort, qui est celui de votre père, qui à un moment donné brise un rêve chez vous. Vous êtes complètement adepte de la magie. Et puis il y a une scène que je ne raconterai pas, que je laisse au lecteur à découvrir. Et alors là, il vous arrête net, avec une grande violence. Alors moi, je me suis demandé si finalement, ce qui vous a embarrassé dans cette famille, c'est justement, est-ce que c'est justement le manque de temps à observer la beauté chez vous ?
Je ne sais pas. Là, vous posez des questions très, très, très métaphysiques. Je pense qu'on écrit, enfin, c'est un livre écrit sur des détails précis, de sensations, de l'enfance. Oui, des moments de malaise, peut-être quand j'ai 8 ans et que je suis dans un restaurant brésilien avec ma mère et mon beau-père et que je vois que je suis le seul qui se comporte comme un adulte au milieu d'adultes qui se comportent comme des enfants. Ce décalage fait qu'à un moment, j'ai commencé à écrire à 8-9 ans, j'ai commencé à prendre des notes, à tenir un journal. Mes parents étaient divorcés, j'avais envie d'éterniser quelque chose du présent. C'est très curieux. Mais moi, j'ai l'impression que tout se règle à 8-9 ans, de toute façon. Je pense que d'ailleurs, les écrivains ont 8 ans pour toujours. J'ai rencontré beaucoup d'écrivains dans ma vie, et des écrivains admirables, très parfois officiellement âgés. J'avais toujours l'impression que c'était des petits garçons ou des petites filles, que ce soit Sagan, Kundera, Paul Nison. J'ai l'impression que quelque chose se passe très tôt dans la vie qui fait qu'on est un écrivain. On est un écrivain parce qu'on refuse de vivre, parce qu'on s'extrait de la réalité pour immortaliser quelque chose. Et donc, oui, l'épisode de la magie, donc j'étais un fan de magie, je jouais à faire des tours de prestidigitation quand j'étais petit, à 7, 8, 9 ans. Et puis il y a un moment où mon père s'est fâché. Enfin, c'est raconté beaucoup mieux dans le livre. Je n'aime pas paraphraser les choses. C'est vrai que si on est écrivain, c'est parce qu'on aime bien écrire et moins parler. Mais enfin, je suis très heureux d'être là néanmoins. En tout cas, c'est un passage. Ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai renoncé à la magie ce jour-là, mais j'espère que l'écriture, c'est une sorte de tour avec des trucs où on essaie quand même de d'émerveiller.
Ouais. Vous dites aussi que écrire, c'est passer à côté de sa vie, c'est ranger quelque chose dans un tiroir.
Oui.
Vous dites, en fait, il faut accepter ça quand on est écrivain.
Oui, c'est Sartre qui dit que l'appétit d'écrire englobe un refus de vivre. C'est tout à fait exact. C'est une infirmité. C'est une maladie, ça vous tombe dessus comme un handicap, parce que très souvent, j'envie les gens qui vivent entièrement le moment, qui ne sont pas sans arrêt en train de sortir de leur corps, d'aller sur cette poutre là-haut et de se regarder en ricanant. C'est une forme de folie qui fait que, en vous parlant, là, j'analyse déjà cette situation. Je suis paralysé par cette lucidité qui est mon problème dans la vie. Donc l'ironie m'a servi de refuge, la fête, l'alcool, la drogue m'ont servi de refuge. Maintenant, j'ai plus envie de me réfugier. Peut-être aussi parce que pendant 2 ans, on nous a empêchés. En fait, on m'a pas permis de me distraire. Plus de cinéma, plus de bar, plus de théâtre, plus de restaurants, plus de boîtes de nuit, plus le droit de voyager. Et donc, pour un type comme moi qui aime se cacher, j'étais coincé. Je me suis retrouvé coincé. En plus, au bout d'une langue de sable menacée de submersion, chez un fou qui jette des rochers dans la mer pour que ce territoire continue d'exister alors qu'il devrait être sous l'eau. Moi, je suis là, je suis acculé, je suis au bout d'une impasse. Et tout d'un coup, je suis obligé d'écrire ces phrases.
Et vous écrivez dans votre livre que vous n'osez pas écrire en public, mais que vous auriez envie de noter tout le temps, tout.
Oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai toujours sur moi des stylos et des
papiers. Pourquoi vous n'osez pas écrire ?
C'est obscène. Je trouve qu'écrire en public, c'est obscène. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, dans un restaurant ou n'importe où où il y a des gens et que j'ai une idée, je me lève, je vais me cacher aux toilettes pour écrire. Souvent, les gens s'imaginent que je vais faire autre chose, d'ailleurs. Mais non, c'est comme ça que j'ai écrit certains de mes livres. Caché, parce que un type qui sort un carnet de notes et qui je trouve que ça a l'air d'un mégalomane. Ça il y a quelque chose de dégoûtant. C'est comme si on se masturbait en public. C'est aussi impudique. Humiliant que ça.
Et alors cet endroit du Cap Ferret, bon, vous avez un truc avec la plage quand même, parce que vos souvenirs d'enfance sont oui. Beaucoup à Guétari.
Oui.
Donc le Sud-Ouest.
Oui.
La plage.
Ben, je suis. Mon nom est un nom béarnais qui veut dire belle vue. Je suis issu du mariage d'un béarnais avec une limousine. Je suis. Oui, mes parents se sont mariés à Guétari. Mes grands-parents sont enterrés là-bas. En fait, pendant 45 ans, je rêvais d'être un homme mondial, international, déraciné. Totalement libre, un électron libre, une particule élémentaire. Et puis est arrivée cette vexation, j'ai des racines, je viens de quelque part. Et quand je suis dans le Sud-Ouest, j'ai l'impression de me sentir mieux. Mais je ne le savais pas puisque je n'y étais pas. Je suis né à Neuilly-sur-Seine et j'ai grandi à Paris. Donc moi, je ne savais pas qu'il y avait des endroits où je me sentirais mieux. Où j'aurais l'impression d'être un peu chez moi, même si on n'est jamais vraiment chez soi. Mais c'est une chose que j'ai constatée empiriquement. Si on me met dans ailleurs que dans cette zone de la France, je suis encore plus malheureux.
Quand on lit ce livre, on a la sensation que finalement, dans cette famille bourgeoise, vous avez un peu hésité à savoir où est-ce que vous pouviez vous asseoir, quelle place vous aviez. On a cette sensation en vous lisant.
Oui, oui.
Et on a la sensation aussi que ben, maintenant, en arrivant sur cette plage au Cap Ferret, vous trouvez un peu votre place où, légitimement, vous pouvez vous installer.
Oui, alors que c'est pas chez moi. Mais une fois encore, je pense que l'acte d'écrire implique un décalage et que si jamais j'ai fait tous ces livres, c'est probablement parce que je me sens jamais à ma place. Mais ce n'est pas... On survit, c'est pas très grave. C'est même probablement indispensable. Et imaginez un auteur qui vous dit ou qui explique « je suis bien tout le temps, partout ». Non, on est engoncé, on est intimidé. Je fais le mariole avec vous parce que je suis intimidé.
Mais là, vous ne faites pas trop.
Je ne sais pas. Je pense que c'est compliqué d'assumer sa fragilité devant des gens qu'on ne connaît pas. Mais grâce à ce verre de vin,
ça va mieux.
J'essaie.
Et vous avez été élevé au cynisme un peu, parce que vous racontez aussi, par exemple, un épisode où vous êtes dans une voiture avec votre père qui conduit mal et vite. Vous avez la trouille, mais vous n'osez pas le dire. On a la sensation quand même que vous avez été entraîné et élevé au cynisme et à pas trop vous livrer quand même.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est la dérision, c'est un peu le déguisement de ma génération. Nous avons été des ironistes, des cyniques, des nihilistes. parce que aussi c'était une époque particulière, la chute du communisme, les attentats terroristes, la destruction du World Trade Center, tous ces événements historiques font que finalement l'engagement politique était un peu ridicule. Changer le monde, c'était ridicule. Même tomber amoureux, c'était un peu ridicule. Pour ma génération, il fallait blaguer. Donc j'ai blagué pendant 40 ans, et puis j'en ai marre de blaguer. Voilà. Donc j'ai fait un premier livre qui s'intitule « L'homme qui pleure de rire » en 2020, sur cette fatigue du ricanement. Et puis maintenant, j'écris, et je pense que j'écrirai plus autrement, des livres absolument sensibles. J'essaie de réduire la distance entre ce que je ressens et ce qu'il y a sur cette page blanche. Et puis, le fait que ça plaise ou ça déplaise m'est complètement égal.
Alors, il y a non seulement votre nature, mais il y a aussi une époque, puisque vous racontez dans votre livre que vous êtes quand même d'une génération absolument libertaire, où quand même le rapport au corps, le rapport à la fête, le rapport à l'autre est tout à fait léger, débridé, absolument contraire à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc ça vous a pas engagé non plus à être plus sincère que ça.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auteurs de ma génération qui sont en train de parler de leur enfance. Parce que c'était quelque chose d'assez spécial de grandir dans les 70s. Donc il y a eu pas mal d'étapes. Je sais qu'Eva Ionesco sort un nouveau roman, mais son premier livre m'a vraiment bouleversé. Christophe Tison, avec qui il m'aimait, a commencé à parler aussi de ce dont il a été victime dans les années 70. Puis ensuite, bien sûr, il y a eu Vanessa Springora, Camille Kouchner. Maintenant, il y a Fabrice Guéniaud. On est nombreux, enfin, à s'intéresser à cette époque de libération sexuelle. Quand on est un enfant et qu'on voit comme ça toutes les structures voler en éclats autour de soi, c'est à la fois joyeux et en même temps il y avait quelque chose de pas naturel et de compliqué pour les enfants. Les enfants ont été un peu les dommages collatéraux des années 60, 70, mais même 80. Puisque dans le cas de Springora ou Kouchner, c'est plutôt 80. Donc, cette génération-là, c'est celle qui est née dans ces années 60-70, c'est des gens qui ont l'impression de ne pas avoir eu une histoire à raconter, et puis en réalité, leur histoire, c'est celle-là, c'est celle d'une inversion des valeurs, comme un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, où tout d'un coup, les objets deviennent trop grands et les portes trop petites, et on se sent dans soit trop grand dans un monde trop petit ou l'inverse. Il y a ça aussi dans Jonathan Swift.
Oui.
Et c'est assez agréable de se dire finalement mon histoire mérite quand même d'être racontée. Je pensais qu'il fallait qu'il y ait des choses plus spectaculaires dans mes livres. Mais à l'âge que j'ai maintenant, je n'ai plus besoin de faire un numéro de claquette.
Alors, il est question de votre frère aussi dans votre livre. Et ce n'est pas la première fois. Et donc, votre frère est une figure très importante dans votre vie, Frédéric Begodet.
Oui, parce que c'est très bizarre, une fratrie. Il n'y a pas beaucoup de livres là-dessus. Il y a un livre de Maupassant, mais sinon, assez peu. Et qu'est-ce que ça signifie, quelqu'un avec qui on est élevé, on dort dans sa chambre pendant 18 ans, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est extrêmement différent, très opposé, et en même temps, bon, comme mon père était absent par la force des choses, mon modèle, c'était lui, mon frère aîné. C'était lui que je suivais, que j'imitais. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait soit pour lui ressembler, soit pour être différent. Et ce qui est marrant, c'est que donc moi, à 8 ans, je savais que je voulais écrire. Et lui, à 8 ans, il regardait les étoiles avec une lunette. Et maintenant, il se lance dans le spatial. Donc, vous voyez que tout se décide à 8 ans. Tout le reste est bidon. C'est intéressant. C'est un peu une humiliation supplémentaire. toute notre agitation, les études qu'on fait, les entretiens d'embauche, tout ça, ça sert à rien puisque tout s'est décidé avant.
Quel regard vous avez sur vos enfants qui grandissent justement, alors, si vous voyez bien que c'est petit que tout se décide?
Ah, en tant que père?
Oui.
Ben moi, ça me passionne, je les regarde, je sais très bien que je ne sers à rien. C'est pas grave. J'espère que je leur apporte de quoi les nourrir.
Vous faites une description de votre maison jonchée de jouets. C'est assez rigolo parce que quand on a lu vos autres livres avant, on a l'impression que vous avez toujours été dans des maisons qui ressemblent à des lendemains de fête. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un lendemain de fête avec des Lego et des Caplas, mais c'est quand même un lendemain de fête.
Vous oubliez les Playmobil.
Ah, c'est très important chez vous, les Playmobil?
Très douloureux quand on marche dessus.
Surtout.
Oui.
C'est votre la vie, quand même.
C'est-à-dire
hein
que... J'ai l'impression qu'on m'a enseigné que le glamour, c'était d'être une rockstar entourée de groupies et tout ça. Et puis, maintenant, je m'aperçois que pour moi, le bonheur, c'est pas du tout ça. C'est plutôt une maison assez simple avec des jouets d'enfants. Donc, je suis en décalage total avec ce qu'on m'a enseigné. Mais j'espère que c'est pas trop mièvre de dire ça. Dans le livre, le personnage, au début, j'arrive pas à dire moi, disons le narrateur, se plaint de cette situation. Sa maison n'est pas très rangée. Il y a beaucoup de jouets de couleurs criardes, fluorescentes, des poupées qui parlent, des choses bizarres. Et puis, vers la fin, il est très très heureux de ramasser un Playmobil dans le sable.
Oui, il a progressé dans ce livre. Alors,
il a progressé vers la niaiserie absolue. Mais l'acceptation du bonheur est compliquée pour des gens cyniques. C'est difficile. Hein,
mais vous y arrivez, là?
Non, pas toujours. Non, non. Non, je pense que c'est le combat d'une vie, hein, d'accepter d'être heureux. Vous savez, les gens qui disent « Ah, qu'est-ce que je vais bien ?» J'ai toujours envie de leur foutre des baffes. Je crois que c'est eux les plus dingues. Je vais bien, je suis normal. Non, t'es pas normal. Ta place est dans un hôpital psychiatrique. Non.
Comment se fait-il que vous écrivez à la première personne, que vous racontiez des choses qui vous concernent, de votre vie, et que vous parlez donc de vos livres et de votre écriture en parlant à la fois de vous et en même temps en disant ce personnage?
Mais je vous ai dit, c'est ma folie, c'est mon problème.
Vous êtes deux.
La schizophrénie, c'est l'état naturel d'un romancier. Un romancier doit être au minimum deux personnes, celle qui vit et celle qui écrit, qui regarde celle qui vit.
Vous dites au minimum parce que vous êtes plusieurs?
Oh, je pense que je suis assez nombreux. Je pense que je suis assez nombreux, oui, oui, oui.
Vous avez, écoutez,
il y a 24 heures dans une journée, on peut être une personne différente par heure. Donc, ça fait 24 personnes.
Mais vous êtes fatigué, alors?
Là, si vous voulez, je peux changer. Je peux devenir quelqu'un d'autre. C'est comme vous voulez. Le problème, c'est savoir qui on est. Mais vous savez, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est Socrate. Connais-toi toi-même. Personne n'a jamais dit une phrase plus importante dans toute l'histoire de l'humanité.
Certes.
Une fois qu'on a dit « connais-toi toi-même », on a résumé le but de l'existence. Apprends à savoir qui tu es et à t'accepter. Et à ce moment-là, tu auras 98 ans. Et donc, ce sera fini. Tu auras passé ta vie uniquement à faire cette chose-là. Et c'est très bien.
Allez, pour finir, juste dites-moi quand même, le Cap Ferret, quand vous décrivez cette pointe du Cap Ferret, vous écrivez, c'est un peu, c'est l'imaginaire de Peter Pan. Peter Pan, c'est un personnage très important dans votre vie.
Ah oui, j'ai placé en exergue du livre l'incipit, comme on dit, la première phrase du roman de J.M. Barrie. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Et comme je vous l'explique depuis tout à l'heure, moi, je ne crois pas qu'on grandisse. Je pense que, en tout cas, dans mon cas, c'est foutu. Je serai toujours un enfant qui parle dans des micros, mais qui a une cravate, mais qui reste un enfant. Et je ne peux même pas vous dire si c'est une qualité ou un défaut. C'est un problème que je dois gérer. Et il me semble que la pointe du Cap Ferret est un pays imaginaire. C'est un pays comme Neverland dans le roman, c'est-à-dire un pays où on ne vieillit pas, un pays impossible, qui devrait être sous-marin, qui est toujours là par la grâce d'un homme, un homme assez exceptionnel, assez extravagant aussi, assez insupportable, qui a investi toutes ses économies dans la sauvegarde de ce lieu. Et c'est aussi comme un roman, quoi, un pays imaginaire, c'est ça. Imaginez un pays qui soit une fiction. Et j'ai eu la chance de trouver ce pays.
Merci Frédéric Becbédé.
Merci beaucoup. Merci.